Virginie Fira, bonjour.
Bonjour.
Alors, un grand merci pour nous consacrer quand même quelques instants d'un agenda complètement full. Alors, je me suis permis de regarder un petit peu l'emploi du temps de Virginie Fira depuis le début de l'année. Alors, on commence, et il n'y a peut-être pas que ça, hein. 17 janvier au 12 mars, c'était le tournage de Delphine Deloger, Rodéo, avec notre arié national. Et puis après, on sort...
Arié, c'est génial, oui.
Et après, on se retrouve en avril-mai avec Valérie Donzelli et Melville Poupeau pour L'amour et les forêts.
Ouais.
On se croise à Cannes, sur la Croisette.
Ouais.
C'était à ce moment-là Madame la maîtresse de cérémonie.
Ouais.
Et également, surtout, deux films, Revoir Paris, Don Juan.
Ouais.
Et puis, un petit blanc, dirons-nous.
Un petit blanc de vacances.
Ouais, quand même. Et alors, le 4 septembre, c'est la Mostra.
Ouais.
Avec les applaudissements pour la découverte en section officielle, Les enfants des autres, de Rebecca Zotowski, qui sort le mercredi 21, et pour lequel, donc, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Mais c'est pas tout. C'est que ce week-end, le 17, on est à Toronto.
Oui, je suis rentrée hier.
Et alors, j'ai dit, quel honneur, quand même, de vous voir.
Mais oui, non, mais je sais, parce que du coup, j'avais hyper envie de pouvoir parler du film et en Belgique évidemment, mais l'agenda se remplit comme ça, et puis il faut bien qu'il y ait un peu de vie dans tout ça. Bah, pour moi c'est la vie, hein, le cinéma et tout ça, mais bon, il y a un enfant et une mère qui veut l'avoir, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses.
Et est-ce que c'est parce que on ne sait pas dire non, ou est-ce que on a peur de louper le rôle avec un R majuscule?
Ni l'un ni l'autre. Alors, peur de dire non, ça c'est vraiment pas ce qui me caractérise du tout. Bah, c'est parce que c'est des bons rôles, déjà. Parce que c'est vraiment c'est des films... je pouvais pas dire non à ceux-là, parce qu'ils étaient... je trouve qu'ils sortaient un peu des lieux communs, du tout venant, du cinéma, parce que c'était des réalisatrices avec qui j'avais envie de travailler. Et parce que j'aime ça, terriblement. Mais je refuse beaucoup de choses, hein.
L'air de rien, quand même.
Ouais.
Mais c'est
ouais.
Quoi c'est
Je crois qu'un acteur, il se définit pas tellement ce qu'il sait bien jouer, mal jouer, tout ça, c'est très subjectif, ça veut pas dire grand-chose, mais par ses choix, par les choix qu'on fait, donc par ce qu'on refuse aussi, oui.
C'est une vie marathonienne, ça va, on tient
bon. De l'extérieur, si j'étais vous, je penserais ça aussi, mais de l'intérieur... L'intérieur, ça va, en fait.
On gère.
Franchement, on gère, parce que faut quand même savoir qu'une journée d'acteur, c'est pas une journée à l'usine, hein, quand même. C'est-à-dire que y a des moments d'attente, moi, je peux faire venir ma fille sur le plateau et faire les devoirs avec elle, hein. Je veux dire, c'est pas dans tous les métiers qu'on peut faire ça. Ben oui, il y a des laps de temps d'attente et tout ça, donc c'est vrai que là, c'est des films que j'avais parfois envie d'accompagner, il y a eu les festivals en plus. Ce qui est compliqué, c'est quand on enchaîne des films et qu'il y a que 10 jours entre chaque tournage, parce que ça, c'est, il faut quand même préparer les choses, et là ça se bouscule un peu, et ça,
comme c'est le cas avec Rodéo et
tout ça, oui, ouais, parce que en fait moi, mon tempérament, bizarrement, dire que c'est très contradictoire, faudrait aller vraiment se faire psychanalyser, mais j'aime beaucoup la lenteur et le silence, donc mais vraiment j'aime bien quand il y a une seule chose, et un tournage c'est chouette en général, parce que là ça n'a pas été tellement le cas, parce que je préparais Cannes, que j'animais en même temps qu'un tournage, mais j'aime bien quand il y a une seule chose sur laquelle se concentrer. Et voilà.
Alors on en arrive à ces enfants des autres. Alors une expression qui sort de la bouche de Rebecca, la belle maternité, c'est quoi, une sorte de néologisme?
Mais c'est parce que quand il n'y a pas de mots, il faut en trouver, quoi. Déjà, belle maman, c'est utilisé aussi pour parler de la femme de attends, ma belle-mère, la mère de son mari, enfin bon, et la belle parentalité, ça n'existe pas comme mot, et pourtant il s'agit quand même d'un engagement vis-à-vis d'un enfant. Il s'agit quand même d'une relation, il s'agit quand même d'un rapport parfois à l'éducation, enfin c'est quelque chose qu'on connaît tous, soit en ayant eu soi-même une belle-mère ou un beau-père en étant jeune, soit en le devenant, parce que quand on rencontre des gens comme moi dans le film, on a nos âges, donc forcément il y a eu des vies avant, et parfois il y a eu des enfants, et qu'est-ce que c'est que s'engager avec quelqu'un et qu'il y en a déjà, qu'est-ce que ça comporte comme beauté, comme obstacle, quoi.
Mais c'est vrai que le portrait de la belle-mère sans enfant, qui intègre un noyau de base avec un père et un enfant, c'est quand même plus courant. On a plus l'envie de voir au cinéma des familles recomposées, etc. Tandis qu'ici, l'originalité chez Rebecca, c'est justement vous qui affrontée, si on peut dire. Enfin, il y a pas vraiment de conflit.
Non, parce que je crois qu'elle a très envie. C'est même elle qui demande à rencontrer la petite fille, tout ça. Ce qui est juste, c'est que du coup, elle se retrouve aussi face à deux personnes qui, par essence même, par des liens de sang, s'aiment de manière inconditionnelle et font famille. Et que ça met plus en exergue le fait qu'elle est seule. Et ça la met face à son propre désir ou non de maternité. En fait, le film traite globalement de l'importance de laisser une trace quelque part.
C'est vrai que c'est un autre sujet aussi abordé, c'est la fertilité. Mm-hmm. Et donc justement, le compte à rebours qui commence, il y a une angoisse qui est là. Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez connu, vous?
Bien sûr.
Parce que finalement, vous êtes devenue maman à 36 ans.
Oui.
Est-ce que vous aviez consulté votre horloge biologique ou...
Alors déjà, c'est une horloge qu'on consulte pas. Et justement, moi, j'en fais un peu le déni parce que c'est comme son âge, on peut décider. Moi, j'ai 45 ans. Parfois, je décide que j'en ai 35. Visuellement, ça, je peux pas faire grand-chose. On a l'apparence qu'on a. Mais dans sa tête, on a plusieurs âges parfois, enfin je sais pas, donc on ne consulte pas son horloge biologique, mais heureusement, c'est quelque chose qui existe peut-être davantage aujourd'hui, où, et heureusement, le rôle de la femme n'est plus que celui de procréer ou de suggérer du désir, il est beaucoup plus large, mais du coup on se retrouve face à quelque chose qui est très présent dans nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire à une envie de faire des enfants plus tard, et donc du coup à une impuissance du corps à y répondre. C'est drôle parce qu'après ce film, il y a beaucoup de jeunes filles de 30 ans qui sont venues me parler et tout ça, et c'est comme si c'était quelque chose qui existait déjà à cet âge-là. Se dire, bon, alors merde, il faut que je mette en place, parce que pour avoir un enfant, apparemment, il faudrait un rapport avec l'autre qui soit déjà bien installé, donc ça, c'est quand même plusieurs années. Donc ça interroge, et je pense que les garçons, les hommes, évidemment, comme ils ne sont pas concernés par les mêmes choses, que ça ne fonctionne pas de la même manière, ne voient pas toujours ça. Et que chez la femme, ça peut y avoir une légère honte aussi, en parler, en faire quelque chose, mais se sentir et de se déterminer en amont sur en avoir ou pas. Il y a très peu de femmes qui, j'en connais, je les trouve très courageuses, qui disent moi je sais que je veux pas d'enfants et c'est une chose décidée. Il y a ça dans, je connais aussi des filles qui disent moi je suis à mon troisième tranquille, je savais que j'en aurais trois. Ah bon, tu savais, génial. Mais aussi c'est des questions assez floues, on se dit merde, comme dans le film, elle dit à un moment je suis même plutôt fière d'appartenir à l'ensemble des femmes qui n'ont, à la communauté des femmes qui n'en ont pas, mais quelque part je me sens privée de cette grande expérience collective, d'un rendez-vous que je pouvais imaginer et que je n'aurais pas, que je ne connaîtrais pas. On sait que la vie est courte et longue, et on se dit tiens, peut-être que j'aimerais bien connaître cette chose-là, mais je dois déjà me déterminer là, et peut-être ça va passer sans. Et je connais beaucoup de filles, je l'étais moi-même, même si finalement moi j'ai eu un enfant, mais dans cette chose, en disant ok, j'aurai une vie la mieux possible et ça sera sans ça. Et le film est vraiment une lettre d'amour à ces personnes-là aussi, ou d'une vie où on se dit que la transmission, laisser une trace, ça peut se faire à d'autres endroits, mais ça nous ramène à nos solitudes, à la marque qu'on laisse, et qui évidemment avec un enfant arrive presque sans effort, certainement pas, mais est induite même dans le fait de la transmission est induite presque.
Est-ce que vous ne trouvez pas que depuis quelques temps, c'est cette panique de ne pas donner naissance ou d'avoir envie d'eux s'estompe un petit peu, ou du moins elle est moins forte de par la crise, la pandémie, la guerre, etc. Et il y a moins cette envie obsessionnelle de...
Qui le dit, hein. Il y a des études là-dessus, et les sociologues qui se penchent sur cette question-là en viennent tout à fait à cette conclusion-là, qu'on peut assez bien comprendre. C'est-à-dire qu'on vit pour le moment dans une idée, pas pour le moment, ça s'installe et s'est installé, je crois, d'une finitude des choses, de l'idée à plein d'endroits différents, d'une façon de vivre qui a ses limites dans la consommation, etc., de la planète qui va de moins en moins bien, de tous de toute une géopolitique complexe, de l'écologie qui va faire qu'il y aura des grands mouvements aussi, de quelque chose où c'est difficile et même D'abord, ça crée des effets concrets dans la vie des gens, déjà, quoi, évidemment. Et même quand les effets concrets sont moins présents, on sent cette chose incertaine, là. Moi, je peux comprendre que, du coup...
On peut y réfléchir à deux fois.
Je crois, malgré tout, que compris dans l'être humain, il y a quand même... Pas, je ne parlerai pas d'une essentialisation de « nous sommes voués à la procréation ». Non, mais je parlerai plus globalement que, malgré tout, le désir de vie, la pulsion vitale caractérise quand même l'être humain. Mais là, juste, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, j'envie les gens qui ont une jeunesse post-guerre, jeunesse dans les années 60, avec le truc qui s'étend devant, où on a l'impression d'un idéal comme ça, alors que, bon, voilà. Mais en fait, on a déjà vécu. Il n'y a pas eu de moments et d'époques historiques glorieuses où tout était vraiment dans un fantasme de perpétuel bonheur. Hein. Je dis, oh, j'aurais bien aimé vivre dans les années 60. Le droit des femmes n'était pas hyper marrant dans les années 60. Ça a quand même plutôt bien évolué. Donc, et on a toujours des sociétés où nos acquis sont remis en question tout le temps. Et encore, moi, j'ai une génération de gens qui ont été très cocoonés par l'histoire. Enfin, je veux dire, on n'a pas connu de grand tremblement, quoi. Mais maintenant, c'est sûr que de sentir qu'aux portes de l'Europe, de sentir ce qui se passe, on sent vraiment de manière physique le fait que les choses ne restent pas.
Rebecca est tombée enceinte pendant le processus de création.
Ouais.
C'est au moment du tournage ou en post-prod?
Après avoir fini l'écriture.
Est-ce qu'elle a changé un petit peu ça, par rapport au scénario que vous aviez lu? Est-ce que ça a donné un autre ton?
Ça, je pense que ça, il faudrait l'interroger elle déjà, mais je pense que ça peut faire.
Par rapport à ce que vous avez lu en tout cas.
Oui, non, il n'y a rien qui a changé sur le scénario, et heureusement, parce que c'était vraiment parfait. Mais je pense que d'avoir parlé de ce qu'elle était, et puis finalement d'avoir un autre état après, ça permet aussi de prendre une distance. Je crois que quand on raconte une histoire aussi personnelle et intime, et clairement, c'est aussi mon histoire. C'est pour ça que moi, j'ai plus qu'à d'autres endroits et d'autres films que je fais, j'en fais pas mal, une envie de raconter ça. C'est parce qu'il suffisait d'aller puiser en moi, quelque part, parce qu'il y avait des endroits de reconnaissance. Mais d'en avoir pris une distance, que ce soit par vieillissement, ou par le fait d'avoir changé de statut, d'être devenu maire, ou autre chose, ça permet d'avoir une distance et de peut-être pouvoir mieux s'y replonger.
Alors bon, on a parlé de Rebecca, on a parlé de vous, et puis il faut quand même parler de Roche Dizem, qui est quand même votre intérêt amoureux et qui interprète Ali. Il y a une alchimie, est-ce qu'elle s'est créée immédiatement? Rebecca avait déjà travaillé avec Roche Dizem, mais vous, comment ça s'est passé? Parce qu'on sent vraiment quelque chose de fusionnel entre vous.
Ah oui, c'est chouette. Mais c'est quelque chose que je ne sais pas sûr qu'on puisse travailler, cette chose-là. Peut-être qu'elle est là ou pas, et qu'on ne décide pas. Roche Dizem avait déjà un rapport très proche de Rebecca, ils avaient travaillé ensemble, ils s'entendent bien, ils se voient beaucoup et tout. Et j'ai senti d'abord des deux côtés un accueil très. Ils étaient contents que je sois là, donc bon, c'est mieux que l'inverse quand même, quand on doit jouer quelque chose. Et Roche Dizem, moi, quand je rencontre un acteur, il y a évidemment ce que je peux m'imaginer de lui, mais il y a aussi tous les rôles qu'il a fait. Moi, je l'ai beaucoup vu au cinéma et je trouve qu'en plus, il a passé plein d'âges différents avec un renouvellement de lui. Donc quand je rencontre aussi les personnages que j'ai vus au cinéma, donc ça m'intéresse de travailler avec lui. Et puis ça m'intéresse dans le rapport. Je l'ai eu avec Magimel aussi, hein, quand j'ai fait Revoir Paris, c'est de trouver ce qui est génial avec le cinéma, c'est que du coup on se branche sur qu'est-ce qu'on a en commun, en fait. C'est comme ça, si on pouvait voir la vie comme ça et les gens comme ça tout le temps, mais il faudrait essayer. C'est voir quels sont les endroits de réunion, et peut-être aussi que, comme il fallait jouer un couple qui se connaît bien, pour se défaire d'une timidité qu'il y a forcément avec quelqu'un qu'on connaît pas, qu'il va falloir toucher comme si c'était quelqu'un qu'on avait l'habitude de toucher, le fait d'être peut-être passé par des scènes intimes, de comment on dort ensemble, comment le corps se pose sur le corps de l'autre, ou bien à distance, ou bien d'une certaine manière, que Rebecca là-dedans soit pas du tout précautionneuse et qu'on y aille comme ça, ça nous a probablement aidé à enlever les timidités et à pouvoir vraiment jouer sur ces questions-là.
Alors un autre homme important quand même aussi dans le film, c'est votre gynéco, Frédéric Weissmann, le tout jeune comédien de 92 piges, ouais. qui est incroyable, une sorte de sagesse de Yoda.
Ouais.
C'est beau quand même.
Ah, c'est super. Oui, oui. Rebecca était hyper admirative de son travail évidemment, et puis elle l'avait rencontré, je crois, au Festival de Venise, et puis elle s'est dit tiens il joue, mais moi je voudrais qu'il joue dans mon film. Et c'est vrai que du coup que son gynécologue ait cette figure là et cet âge là, ça donne quelque chose de oui, vous dites, de Yoda, d'une grande sagesse. Et donc moi, une chose toute petite dans le film, et le film contient plein de petites choses que je trouve très très grandes, et à un moment elle lui dit justement la vie est courte et longue, et il fait oui, la vie est longue, et j'aime bien qu'il tranche par la vie est longue en fait, on sait pas en fait, et pour moi ça raconte qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve, on passera à côté de choses, on a rêvé de certaines choses dans notre vie, elles n'arriveront pas, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on n'a pas pensé et qui elles peuvent advenir.
Et un petit peu, c'est celle-là, on soit un peu plus légère, dirons-nous. Et au niveau de la comédie, est-ce que, par exemple, la scène de la terrasse, c'est vous qui amenez ce côté comédie, c'est dans vos gènes
Oui, moi j'aimerais bien être une vraie grande actrice de comédie, parce que ça va avec des gestes, une façon de faire, de dire et tout. Et ça malheureusement, je ne le suis pas, mais je suis à l'aise dans les scènes de comédie, en revanche, j'aime bien ça. Et je trouve qu'une scène, effectivement, et ça c'est chouette, surtout que je suis nue comme un verre, donc pareil, moi j'ai une pudeur dans la vie que j'ai pas au cinéma, mais dans la vie je l'ai beaucoup, mais du coup il y a le premier passage quand même, quand on est à poil dans un film, c'est quand même tout de suite, c'est quand même un peu, ça va pas de soi. Mais là ce qui était chouette, c'était que c'était une scène comique, c'est-à-dire que quand l'enfant ne sait pas que son papa est avec quelqu'un dans sa chambre, et elle dit elle va vers la chambre, donc tu te dis elle peut pas me voir à poil dans le lit, je peux pas donner cette image à cet enfant, donc elle va sur la terrasse. Et tout le monde peut la voir. Oui, ça s'était écrit. Ah, ouais. Mais en revanche, il n'y avait vraiment pas, comme on n'est pas sur un film avec un budget limité, tout le monde pouvait vraiment me voir. Quoi. Enfin, je veux dire, et puis c'était la nuit et c'était l'hiver, donc c'était pas comme s'il faisait 30 degrés. Quoi. Il faisait très froid et tout ça. Et j'avais un tout petit truc pour me cacher. Donc tu joues avec ta propre gêne. Tu joues avec ta propre pudeur, et le côté comique, un corps il contient des parties musclées, d'autres parties qui le sont moins, si on s'agite dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens et c'est comique. Donc j'étais assez contente que tout le monde rigole à la fin, que je me dis tiens, faire une scène comique nue, c'est simple, c'est amusant.
Original.
C'est original. Ouais.
Alors moi, ce que je trouve quand même admirable chez vous, c'est que vous irradiez, on a l'impression, et surtout sur ce film, que vous captez la lumière.
Ah ouais.
Merci à Georges Le Chaptois.
Ah oui, c'est
chef op habituel de Rebecca. Question technique, est-ce que vous, quand vous êtes sur un plateau, vous regardez l'emplacement des caméras, vous occupez de ce qui est focal, lumière, objectif?
Pas sur ce tournage-là, du tout. Ça dépend de la place qu'on me laisse à pouvoir le faire ou pas. Donc, alors, j'aimerais bien vous dire que je m'occupe des focales, mais pas du tout. Les focales, donc, c'est savoir si l'objectif est proche ou loin et tout ça. Parfois, si je peux même ne pas savoir exactement si la prise concerne plus mon partenaire ou moi. Bon, évidemment, si la caméra devant moi, je sais bien qu'il s'agit de moi qu'on filme, mais je veux dire, j'aime bien, comme j'adore jouer, parfois je trouve même que je joue mieux quand je suis pas filmée, c'est dommage, hein, mais j'adore jouer en fait, même quand. Donc, j'aime bien pas savoir pour pas me sacraliser.
C'est le contre-champ. Ouais.
Ah ouais, j'adore, mais j'aime pas me dire, c'est maintenant le moment, il va falloir. J'aime bien quand tout est mis à égalité en fait. Il s'agit de jouer, puis voilà. Mais avoir un trop grand. S'en foutre complètement, non. C'est-à-dire que sur les tournages où je peux voir le combo, je regarde le combo pour comprendre ce que c'est qu'une image. Il m'est arrivé aussi, moi maintenant, bizarrement, alors que je vieillis, mais à l'époque, de faire attention à la lumière, où c'était, de réfléchir. Mais maintenant, je tourne avec des bons chefs-op. Je dis pas qu'avant ils étaient mauvais, mais j'avais fait des premiers films où franchement j'étais encore une jeune fille, enfin une jeune fille non, mais je sais pas, je devais avoir le début de la trentaine, et on aurait dit la reine Elisabeth en fin de vie, quoi. Bon, c'est pas très bien choisi comme exemple vu l'actualité, pardon, mais je veux dire, je vois des films, je me dis c'est pas possible quand même, il faut quand même que je fasse gaffe, parce que là et du coup j'ai fait un peu plus attention, mais là je dirais que ça fait quand même peut-être 10 films où non, ça pas là-dessus, je fais confiance.
Alors, hasard ou coïncidence, vous tournez pour l'instant, donc tout va bien pour Disney+.
Oui.
Votre personnage, c'est Claire, qui va essayer de se rapprocher de la fille de son compagnon. C'est assez amusant comme
Personne. C'est vrai. Mais alors, c'est pas du tout pareil dans le sens où elle peut pas saquer. Enfin, elle s'entend pas du tout avec la mère. Donc, dans mon personnage,
Mon personnage
n'a pas d'enfant, mais elle s'est résolue cette question-là. Pas d'enfant, elle n'a pas du tout envie d'avoir des enfants. Et elle est obligée d'avoir un rapport avec la fille de son copain, mais ça l'ennuie un peu. Il faut dire que pendant ce temps-là, moi, ma nièce est à une leucémie, donc j'ai peu d'autres choses en tête que des petites histoires de ceci, de cela, de la dépouille. Il faut que je m'en occupe, franchement. Donc, je ne suis pas une super belle-mère. Moins qu'un film.
Oui.
Parce que j'ai choisi, alors moi, on m'avait proposé quand même pas mal de choses, mais pas pour ce qu'on m'avait proposé à moi pour le moment. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à chercher en France. Je vois des trucs bien comme spectatrice, mais c'est assez nouveau. Mais on n'est pas encore comme les Américains. Je sais qu'il y a des séries belges qui sont démentes aussi, mais on a encore des choses à inventer, je trouve. Mais celle-là, c'est ceux qui ont fait le Bureau des légendes, c'est Eric Rochant, c'est Camille Castelnau. Et il y avait une force d'écriture. Mais c'est une série chorale. On est beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'acteurs différents. Et du coup, je ne suis pas là 6 jours sur 7.
Parliez des Américains, où vous citez comme référence Jenna Rollins, Jill Clayburgh, Diane Keaton, et de l'autre côté de l'Amérique, de l'Atlantique.
De l'autre côté de l'Atlantique, quantité hein, de personnes. Alors là, celle que je vois dans ma tête et qui passe, c'est les plus connues. Hein, donc peut-être que je vais arriver à des choses plus particulières, mais c'est Romy Schneider, c'est Jeanne Moreau, c'est Simone Signoret, c'est Catherine Deneuve, petite passion Deneuve. Attends, j'aimerais bien trouver tout à l'heure, juste avant de vous voir, on parlait avec des gens qui s'occupent du film de Emmanuel Mouret et de Sandrine Kiberlin, je trouve qu'elle amène toujours une légèreté, un espace de cerveau disponible, on demande toujours ce qu'elle pense. Il y en a d'autres, Catherine Deneuve aussi, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle pense? Elle parle, il y a son débit, on dirait qu'elle pense à autre chose en même temps qu'elle parle. Il y en a plein, des Françaises que j'adore, Annie Girardot, qui a eu plein de périodes différentes et qui était absolument merveilleuse. Je pense à Jeanne Balibar quand elle fait Barbara, enfin, beaucoup de gens, quoi.
Virginie, un grand merci.
Donc
on rappelle les Enfants des Autres qui sort ce mercredi 21 septembre.
Allez-y.
Merci.